France Culture. France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Qui aurait cru il y a quelques années que Donald Trump serait considéré par certains comme un candidat légitime au prix Nobel de la paix ? Qui aurait pensé que la lauréate de cette distinction humaniste dédierait son prix au président américain, affirmant qu'il le méritait au regard de sa capacité à mettre fin à des conflits? Mais que veut dire le mot « paix » dans la bouche de Donald Trump? Est-ce un élément de doctrine géopolitique ou bien un slogan en trompe-l'œil? Comment expliquer que ce terme soit si souvent synonyme dans sa rhétorique d'une notion qui semble aux antipodes du droit international, l'obsession typiquement trumpienne d'échafauder des « deals » ? Si la guerre était, selon Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens, l'art de la paix est-il, selon Donald Trump, le prolongement de l'esprit de négoce et son application dans le champ des affrontements militaires, l'extension du domaine du commerce à celui du tragique, en l'occurrence des drames sanglants qui marquent notre temps. Quand Donald Trump parle d'un avenir meilleur pour le Moyen-Orient, quand il promet depuis son retour au pouvoir de mettre un terme à la guerre en Ukraine rien qu'en dialoguant avec Vladimir Poutine, quand il se retire de chaque accord international qui lui paraît défavorable pour les États-Unis, quelle langue parle-t-il ? Celle de l'impérialisme américain, de l'isolationnisme, du populisme et du droit du plus fort, ou bien d'une néopolitique aux accents mercantiles ? Trump, la paix n'est-elle qu'un deal ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de l'essayiste Hakim El-Karoui, du grand reporter Gallagher Fenwick et de la géopolitologue Marie-Cécile Nave.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique et autrice de Géopolitique des États-Unis aux éditions Erol. Bonjour Gallagher Fenwick.
Bonjour Nathan.
Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales et ancien correspondant à Washington. Et bonjour Hakim El-Karoui.
Bonjour Nathan.
Vous êtes essayiste et auteur de Israël-Palestine, une idée de paix aux éditions de l'Observatoire. Alors, je voulais partir de, pour cette discussion d'une actualité récente, à savoir le prix Nobel de la paix qui n'a pas été remis à Donald Trump, mais à Maria Corina Machado, qui est une opposante vénézuélienne. Donald Trump, on va l'entendre dans un instant, estimait qu'il méritait ce prix plus que n'importe qui après avoir mis un terme à énormément de conflits. Et Maria Corina Machado elle-même a dit, à la fois dans une interview, et Trump l'a fait savoir parce qu'il a eu un échange téléphonique avec elle, qu'elle dédiait ce prix à Donald Trump parce qu'il estimait qu'il la méritait autant qu'elle, voire plus. Cette situation, je crois qu'elle était impensable en 2016, quand Trump est arrivé au pouvoir pour la première fois. Elle était impensable quand il a été réélu et qu'il est revenu à la Maison-Blanche il y a à peu près un an. Gallagher Fenwick, comment analyser le fait que Trump puisse être perçu par certains comme un faiseur de paix ?
Ben, d'abord, pour rester sur ce prix Nobel de la paix, la manière dont je l'ai interprété, je n'ai aucun moyen de le démontrer, donc c'est une proposition que je fais, c'est que le comité était quand même bien embarrassé par le formidable coup de publicité qu'il a reçu de la part d'un président qui s'évertue et s'entête à penser qu'il est seul à le mériter, et le caractère pleinement absurde que vous soulignez quelque part par votre question qui consisterait à le lui accorder alors qu'il vient, et je ne cite que quelques exemples, de renommer son département de la défense en département de la guerre, qui fait exploser des bateaux vénézuéliens quand bon lui semble, qui menace le Groenland, le canal de Panama, le Canada d'annexion, ça paraissait un peu poussé. Donc je crois que c'est un choix qui dit plus de cet embarras du comité Nobel qui s'est dit bon, à qui on peut le donner sans trop énerver Donald Trump. Et donc, il trouve cette personne dont il faut saluer, c'est vrai, Madame Machado, le courage face à un régime très très dur, à savoir celui de Maduro. Mais Machado elle-même n'est pas non plus une tendre. Il faut entendre ce qu'elle dit, la théorie, la raison pour laquelle elle salue Donald Trump. C'est parce qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est une intervention militaire américaine. Elle souligne quand même la théorie kissingerienne qui a quand même prouvé ce qu'elle valait, notamment en Indochine pendant la guerre froide, en disant si le Venezuela tombe, le reste suivra, c'est-à-dire les castristes du côté de Cuba et d'autres sur le continent latino-américain. Donc c'est franchement un prix Nobel assez étrange, mais qui correspond parfaitement à l'époque qu'on vit, où effectivement, vous vous retrouvez, Nathan, à me poser une question sur Donald Trump, faiseur de paix, point d'interrogation.
Oui, et Marie-Cécile Nave, il y a aussi une autre dimension, c'est que Donald Trump, depuis longtemps pour le coup, quand il dit qu'il mérite le prix Nobel de la paix, c'est aussi avec une forme d'amertume vis-à-vis du fait que Barack Obama l'avait obtenu juste après son élection, après le discours du Caire plus précisément, qui avait été un moment dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et Donald Trump avance cet argument de dire « moi j'ai un bilan, Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait encore rien fait, moi j'ai un bilan et tout le monde refuse de me le reconnaître ».
Oui, il est certain que la comparaison avec Obama est majeure et que pendant son premier mandat, il s'est évertué à essayer de défaire autant que possible l'héritage d'Obama, en particulier en politique étrangère, avec les effets que l'on a vus en Iran, hein, par exemple avec le fait de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. On a vu les conséquences que ça a eu, c'est un exemple parmi d'autres. Et je crois que c'est lié à cet élément-là, c'est que Trump, c'est une marque qu'il faut entretenir, et donc un récit à nourrir, une mise en scène de soi, de l'homme fort qui réussit tout, en particulier là où les autres ont échoué. Et donc ce self-branding consistant à dire « moi j'arrive et je vais résoudre tous les problèmes du monde parce que je tape du poing sur la table », c'est un récit extrêmement puissant, extrêmement performatif, qui alimente une propagande très très largement reprise. Hein. Ça, je trouve que ça marche très bien dans une grande partie du récit médiatique, et qu'il faut analyser, par rapport à laquelle il faut prendre pas mal de recul. Quand on regarde dans le détail, quand il dit « j'ai résolu en quelques mois 6 conflits mondiaux », en fait, il n'obtient que des accords bancals qui profitent à des pouvoirs autoritaires. Il est un peu l'homme sandwich des dictateurs. Il ne fait que confirmer des conflits gelés, que ce soit l'Arménie, l'Égypte, le Pakistan, etc. Mais ça entretient le récit, la photo, l'iconographie d'un homme fort qui réussit tout là où les autres ont échoué.
Alors, puisque vous parlez de ce récit médiatique, de ce self-branding de Donald Trump, en septembre 2025, le 23 septembre, à l'Assemblée générale des Nations Unies, il était le premier à faire son auto-promotion en matière de paix.
I ended 7 wars, and in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that.
And I did it in just... J'ai mis fin à cette guerre, dit Donald Trump. Toutes causaient des rages et la mort de milliers de personnes. Cela inclut le Cambodge et la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda, une guerre féroce, le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, ainsi que l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aucun président ou premier ministre, ni d'ailleurs aucun autre pays, n'a jamais accompli quoi que ce soit de comparable. Et je l'ai fait en seulement 7 mois. Je suis très honoré d'avoir accompli cela. J'ai mis fin à cette guerre. J'ai négocié avec les dirigeants de chacun de ces pays. Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacune de ces réussites, mais ce qui m'importe, ce n'est pas de gagner des prix, c'est de sauver des vies. Hakim El-Karoui, que pensez-vous de cette rhétorique-là ?
Je crois que Donald Trump invente quelque chose de nouveau qui est l'ego géopolitique, avec l'idée que, tout doit tourner autour de lui, que le monde doit tourner autour de lui et qu'une façon de montrer sa centralité, c'est de pouvoir dire effectivement à des dictateurs qu'il est temps d'arrêter des guerres. Non pas pour faire la paix, pour résoudre des problèmes, pour trouver une solution au conflit, mais pour que les armes se taisent. Et donc, de ce point de vue-là, c'est lui, mais c'est surtout la puissance des États-Unis qui ont aujourd'hui une capacité militaire et financière pour imposer un certain nombre de décisions à des dirigeants. Oui, il y arrive, mais comme ses prédécesseurs y arrivaient, et bien souvent, et malheureusement, c'est pas du tout des accords de paix, c'est juste du cessez-le-feu, et dans le cas israélo-palestinien, on en parlera, il y a aucun élément qui permette de se dire qu'on est sur le chemin de la paix.
Alors, puisque vous parlez du cessez-le-feu et du cas du Moyen-Orient, il est vrai donc que cette semaine, quand Donald Trump est allé à Jérusalem, à la Knesset, pour faire un discours historique dans tous les sens du terme à la suite de ce cessez-le-feu, il a salué un jour formidable pour le Moyen-Orient, un jour formidable dans l'histoire des civilisations, et il a dit en substance, il l'a dit d'ailleurs clairement, contrairement à mon prédécesseur sur lequel il a très souvent des termes extrêmement insultants, eh bien moi j'ai réussi à faire taire les armes et à empêcher la mort. Gallagher Fenwick, que pensez-vous de la manière dont ce cessez-le-feu au Moyen-Orient est ou n'est pas perçu comme un moment de paix?
Je rejoins en fait le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur le Nobel, c'est-à-dire que ce moment dit à la fois quelque chose de Donald Trump, mais dit aussi quelque chose de celles et ceux qui sont autour, qui n'ont rien fait, et qui en cela sont complices, parfois coupables, soit par leurs ambiguïtés, leurs errements, leurs atermoiements, leur silence gêné. Et donc Trump, et on cherche, et on va chercher ensemble, Nathan, à mettre un mot qui puisse décrire de la manière la plus précise possible sa politique étrangère, là il est opportuniste, et la raison pour laquelle il s'attribue, il s'adresse ses éloges à lui-même comme il a coutume de le faire, c'est pas parce qu'il est très grand, c'est davantage parce que ceux qui n'ont rien fait, à commencer par Joe Biden, sont tout petits. Et Joe Biden n'a pas rien fait, il a contribué au carnage à Gaza. Et donc, Donald Trump, pour moi, si vous voulez, n'est pas un faiseur de paix. C'est un bricoleur de cessez-le-feu ou un rafistoleur de statu quo sur la question proche-orientale. En revanche, le crédit qu'il faut lui accorder, et en cela, il a raison, c'est qu'il a fait taire les armes. L'armée israélienne, pendant 2 ans, tue en moyenne 1 enfant palestinien par heure à Gaza. Près de 20 000 enfants morts. Depuis que les armes se sont tues, il y a des enfants gazaouis qui auraient été tués ou amputés sans anesthésie et qui aujourd'hui sont vivants. Et ce crédit, il faut le lui donner à Donald Trump. Après, il s'agit, il convient de décrypter les mécanismes, il y a une part d'opportunisme, il y a de la pression de la part du Qatar, dont, pays dont il est quand même reparti avec un Boeing à 200 millions de dollars. There's no such thing as a free lunch. Il n'y a pas de Boeing gratuit, ça se paye à un moment. Donc je pense que quand les Qatariens, si vous voulez, voient leur capitale dont ils estimaient qu'elle était sanctuarisée à la fois par les cadeaux à Trump et par la présence permanente de 10 000 militaires et qu'ils voient un aréopage israélien bombarder Doha, là il y a un moment de choc qui donne derrière la séquence où Donald Trump humilie le Premier ministre israélien dans le bureau de la Maison-Blanche, en prenant un téléphone à cordes, en lui disant « Tiens, ça, c'est le ministre qatarien des Affaires étrangères, tu l'appelles et tu t'excuses. Oui. » Mais encore une fois, Donald Trump, et j'en termine par là, pour moi, et c'est ce que je propose, il est à la diplomatie ce que la médecine de guerre est à la chirurgie. Il arrive, les autres, notamment les Européens, se disent « Qui va suturer ? Qui va inciser ?» qui va réanimer, qui va stériliser le théâtre d'opération. Lui, il vient sans gants, c'est pas propre, c'est pas beau, il vient avec un bout de papier qui n'a pas grande valeur, avec 20 points dessus, il colmate, il arrête les saignements abondants. Ça, la chirurgie de guerre, si vous voulez, la médecine de guerre, ça permet, et en l'occurrence, c'est la solution à deux états qui est dans un état critique, de sauver quelque chose, si vous le faites dans les 10 premières minutes. Mais derrière, la survie n'interviendra du patient que si les détails sont pris en charge dans une structure qui permette vraiment d'agir dans les détails. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Bon, derrière, qui va désarmer le Hamas? Qui va stabiliser? Qui va assurer que l'État hébreu, à nouveau, ne rompt pas le cessez-le-feu? Qui va juger? Qui va faire en sorte que les critères qui sont affreusement vagues deviennent clairs et soient appliqués aux uns et aux autres? Donc il y a quand même pas mal de questions.
Alors, cet accord de paix, il s'inscrit aussi très clairement dans la continuation des accords dits d'Abraham, c'est-à-dire des accords de paix et de relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays sunnites. Donald Trump, dans son discours à la Knesset, avait d'ailleurs dit est-ce qu'on les prononce Abraham ou Ibrahim, si c'est des accords de paix? Et lui, il était
Abraham.
Abraham, il a fait tout un jeu de mots là-dessus. Marie-Cécile Nave, est-ce que dans les deux cas, il y a aussi une sorte de paradoxe à vouloir penser une paix entre Israël et la Palestine, mais sans la Palestine, sans même convoquer les Palestiniens sur la question.
Ah ben c'est toute la question, et effectivement, les accords d'Abraham était déjà posait déjà cette problématique, hein. C'est-à-dire que c'est, les accords d'Abraham s'étaient faits sans les Palestiniens n'étaient pas autour de la table, et là, ils n'y sont pas non plus. Qui va administrer Gaza? Ça ne pourra pas se faire sans eux. Et pourtant, ils ne sont pas envisagés dans l'équation, ils ne sont pas à la table des négociations, mais c'est pour leur bien, dit l'accord de paix, signé, enfin, présenté le 29 septembre à Washington, « for the benefit of people of Gaza ». C'est pour leur bien. Ils peuvent partir, ils peuvent rester, ils font comme ils veulent, mais en tout cas, on le fait pour eux, même s'ils ne sont pas, et surtout s'ils ne sont pas autour de la table. Qui va payer la reconstruction de Gaza? Qui va assurer les structures diplomatiques? Quelle coalition sur place? Quel est le but politique, à part d'installer les amis businessmen de Trump, notamment dans le monde de l'immobilier, mais aussi dans la tech, et peut-être on en reparlera. Et d'ailleurs, qui est sur la photo en Égypte en particulier? C'est Kushner, c'est Witkoff, donc c'est pas des diplomates, c'est plutôt des agents immobiliers, on pourrait dire, pour résumer un peu. Et puis, qui on voit arriver aussi? Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est là dès qu'il y a un peu d'argent, dès que ça sent l'argent et le business, on a ce type de protagoniste. Donc c'est aussi pour afficher le fait que la paix n'est pas tellement un objectif, mais plutôt un moyen pour faire du business. Pour moi, ce plan de paix qui n'en est pas un, c'est un business plan pour la famille Trump.
Alors, Hakim El-Karoui, vous avez écrit un article dans Le Grand Continent qui s'appelle « La paix de Trump n'aura pas lieu », où vous soulignez une dimension, c'est vous parler d'une paix du plus fort. Alors, en préparant l'émission, Aline Biet avait ce concept de paix éclair, comme certains disent guerre éclair. Vous dites paix du plus fort, à savoir une paix qui traduit une vision de la paix issue de la droite israélienne, qui considère que la paix n'adviendra que le jour où Israël sera suffisamment fort pour imposer ses conditions. Comment concilier la paix et la force dans ce genre de dossier?
Ben, la paix, elle intervient quand il y a deux belligérants qui décident de mettre fin à la guerre. Ça peut se passer dans plusieurs cas. Il y a un cas où il y a une capitulation d'un des deux belligérants. C'est probablement ce que les Israéliens auraient voulu. Le problème, c'est que les termes du conflit ne permettaient à aucun moment cette capitulation. Ni celle du Hamas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a plus de combattants du Hamas aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Ils veulent évidemment pas rendre les armes. Et puis, de toute façon, ils ne représentent pas les Palestiniens. Ni celle du Hamas, ni celle en général des Palestiniens. Puisque les Palestiniens, c'est ça ce qu'a montré cette guerre, c'est que malgré toutes les horreurs qu'ils ont subies, ils sont toujours là. Et ils sont toujours là aussi parce que leurs voisins ne veulent pas les accueillir. Les Israéliens, depuis le début, depuis la fondation d'Israël et même avant, Ben Gurion disait, la solution, c'est très simple, l'Eretz Israël est petit et le monde arabe est grand. Et il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a que des Arabes. Et donc, leur vocation, c'est d'aller rejoindre aux alentours les pays arabes. Et puis nous allons trouver un refuge dans cette terre petite et étroite qui s'appelle Eretz Israël. Sauf que 80 ans après, c'est pas ça qui s'est passé. Et la guerre de Gaza, d'une certaine manière, est l'expression ultime de cet enfermement des Palestiniens. Et donc, les Israéliens se retrouvent face à la même situation, celle du départ depuis 80 ans. Qu'est-ce qu'on fait des Arabes? C'est ce que disait Hannah Arendt en 1947-1948. Elle disait, la seule question morale, la seule question politique pour les Israéliens, c'est la question, quoi qu'inadressée, des Palestiniens. Cette question n'a toujours pas été réglée. Et donc, si elle n'est pas réglée, à aucun moment on peut envisager la paix. Et donc, le problème des Américains et de Trump, c'est qu'ils suivent la volonté des Israéliens, notamment de la droite israélienne, mais au-delà, bien au-delà aujourd'hui, de ne pas voir les Palestiniens. Et tant qu'ils ne verront pas les Palestiniens, on ne pourra pas écrire le langage de la paix.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Si l'on veut essayer de comprendre le concept de Trumpien de paix, peut-être faut-il essayer aussi de le situer dans la longue histoire géopolitique des États-Unis, qui, alors je ne veux pas être trop caricatural ou schématique, mais a souvent été une forme de balancier, de mouvement de balancier, entre une position qu'on va qualifier d'impérialiste, une position qu'on va qualifier plutôt d'isolationniste, de la doctrine Monroe à l'intervention américaine pendant la Première Guerre mondiale, retour de l'isolationnisme dans les années 20 et 30, évidemment participation des États-Unis à la Deuxième Guerre mondiale, comme s'il y avait une tension entre la vision d'une Amérique qui devait devrait être le gendarme du monde versus le concept d'America First, primauté américaine, comme s'il y avait une tension entre la notion d'ingérence et l'idée d'une forme de repli, d'exceptionnalisme américain sur le plan des valeurs que les Américains représentent, un modèle de société qui serait ontologiquement meilleur que tous les autres, versus une forme de multilatéralisme, ou dirait-on en France de souverainisme, enfin c'est pas trop le mot. Marie-Cécile Nave, comment on pourrait situer Donald Trump dans ses coordonnées géopolitiques?
Je crois qu'on ne peut pas, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de doctrine géopolitique de Trump. C'est vraiment en fonction des situations, des opportunités. Ce qui est tout à fait frappant par rapport au... Il y a un contraste énorme par rapport au projet en politique intérieure, qui lui est tout à fait cohérent et tout à fait pensé, et se déploie chaque jour de manière de plus en plus... importante et autoritariste que la veille. Aujourd'hui, c'est un jour de très grandes manifestations anti-Trump sur tout le territoire des États-Unis, d'ailleurs. Mais je pense qu'il n'y a ni doctrine, ni vision géopolitique de Trump sur le long terme. C'est ce qu'on pourrait quand même retenir si on cherche des points de cohérence, c'est une diplomatie par l'argent, une diplomatie de l'argent, des visées expansionnistes, parfois des visées d'exploitation des terres et de mise en scène d'un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en fonction des situations, en fonction des rapports de force qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus mouvants que pendant la guerre froide par exemple, ou même que quand il était au pouvoir lors de son premier mandat, peuvent parfois le déstabiliser. L'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est tout à fait emblématique à cet égard. Il ne peut pas juste en tapant du poing sur la table et en proposant un deal économique parvenir à la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Le fait que vous fassiez référence à ce conflit est, je crois, très intéressant, même dans le cadre de notre échange, puisque nous avons parlé de la position trumpienne dans le conflit au Proche-Orient, et c'est très intéressant de comparer la relation entre Trump et Netanyahou, et d'une part, et la relation qu'il a d'autre part vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il se fait qu'en plus, hier, Trump a reçu Zelensky à la Maison-Blanche, il a temporisé sur les missiles Tomahawk, il a pressé Zelensky de trouver un accord avec Vladimir Poutine, il a dit lui-même qu'il rencontrerait Poutine bientôt à Budapest, normalement, dans un sommet dont le cadre reste à préciser, et tout ça s'inscrit aussi dans la fameuse scène de l'humiliation dont tout le monde se souvient, où Donald Trump avait accusé Zelensky de jouer avec la vie de centaines de millions de personnes, de jouer avec la Troisième Guerre mondiale, après l'avoir traité quelques jours plus tôt de dictateur. Gallagher Fenwick, si on analyse cette position-là, est-ce que c'est un recul de l'impérialisme américain? Est-ce que c'est une absence de doctrine? Comment vous qualifieriez cela?
De trumpiste. Et Marie-Cécile Nave l'a très bien expliqué à l'instant, ce qui est à la fois fascinant et épuisant, c'est que le trumpisme, il en est le propriétaire exclusif. C'est une matière qui est à la fois vivante et mouvante, et elle est en constante évolution. Et elle se déplace sur un spectre que vous avez décrit historiquement, qui va de l'isolationnisme à l'expansionnisme. Et ce qui est épuisant... D'abord, pour celles et ceux qui subissent ces conflits et qui cherchent auprès de lui désespérément des garanties de sécurité et de l'aide militaire, c'est qu'un coup, il semble tendre dans leur direction et un coup de fil plus tard, notamment avec Vladimir Poutine, il s'éloigne à nouveau. Et donc, j'entendais un analyste américain qui disait c'est tug of war, c'est-à-dire cette idée qu'on tire Donald Trump et puis dans la minute qui suit, hop, il nous échappe à nouveau, il faut le retirer vers soi. Hier, quand il a reçu Volodymyr Zelensky, en revanche, il y a une constante chez lui, il a dit à un moment, vous savez, je crois qu'aucun autre président des États-Unis n'a jamais fait la paix. Et d'ailleurs, mes prédécesseurs, ils démarraient plutôt des guerres. Et de qui est-ce qu'il a parlé? Et là, c'est très intéressant quand vous voulez essayer de mettre le doigt sur la matrice trumpienne et ce qu'elle contient en matière dans son cœur de politique étrangère. Il parlait de George W. Bush. Et s'il y a une chose qui est exécrée au sein du courant MAGA, c'est le courant néoconservateur. Et c'est Forever Wars, les guerres éternelles, les guerres au Proche, au Moyen-Orient, la Mésopotamie dévastée, non pas par empathie pour les Irakiens, les Syriens, etc., mais pour les soldats américains qui font partie de l'électorat trumpien, les oubliés, les petits blancs, les petits blacks qu'on envoie à la casse. Et Donald Trump dit « c'est moi qui vous protège quelque part ». Est-ce que pour autant Trump est un pacifiste? Est-ce que c'est un néo-isolationniste? Non, parce que moi, J'espère me tromper, mais je pense que les États-Unis ne sont vraiment pas très loin d'entrer en guerre contre le Venezuela. On va peut-être en parler. Donc, il ne faut pas exclure la guerre du champ d'action de Donald Trump. Et je termine en disant que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Donald Trump, il est très dépendant de la dernière personne qui lui aura parlé. Et autour de lui, il a des courants qui s'affrontent. Des techno-césaristes, des nationaux populistes, des catholiques fondamentalistes, anticommunistes à l'ancienne comme Marco Rubio, qui est très content quand Madame Machado remet sur la table la théorie kissingerienne des dominos, en disant mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Si on fait tomber Maduro, on va démocratiser et néolibéraliser tout cet espace-là, et ce sera, Monsieur le Président Trump, encore plus d'affaires à faire.
Alors, dans cette confusion, dans cette absence de doctrine, où vous avez montré, il y a quand même cette constance, enfin, du refus de la logique néoconservatrice, il y a peut-être quelqu'un qui permet de comprendre plus clairement Donald Trump qu'il ne se montre lui-même, qui est son vice-président, J.D. Vance, puisque J.D. Vance, lui, quand il parle, il exprime une doctrine qui semble en tout cas assez structurée, quoi qu'on en pense, et qui marque un autre virage géopolitique majeur des États-Unis de Donald Trump, qui est une prise de distance totale avec l'Europe. Et peut-être, c'est la question qu'on va se poser, la fin d'une diplomatie des valeurs.
Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ses valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ?
Hakim El-Karoui, quand J.D. Vance, à la conférence de Munich en février 2025, actait cette rupture presque métaphysique avec l'Europe, était-ce une manière quand même de sonner le glas de l'universalisme et d'une paix fondée sur des valeurs ?
Oui, je pense qu'il faut connecter cette déclaration qui concerne les Européens avec ce que disent les dirigeants américains sur l'ennemi de l'intérieur aux États-Unis. Parce qu'en fait, et je pense qu'on comprend bien les deux, l'ennemi de l'intérieur aux États-Unis, ce sont leurs opposants démocrates, et c'est une certaine idée de la liberté et de la démocratie. Et je pense que les Européens sont leurs premiers ennemis de l'extérieur, précisément parce qu'ils incarnent cette idée de la liberté, de la démocratie libérale. Et cette idée-là, c'est cette idée qu'ils doivent combattre aux États-Unis pour imposer leur nouveau régime, pour combattre leurs opposants. Et donc les Européens, d'une certaine manière, c'est comme s'ils étaient les démocrates de l'extérieur. Et donc c'est d'abord contre eux qu'il faut se tourner. Et pour se tourner contre eux, ben c'est très simple, il faut les lâcher et les accuser de faire ce que les Trumpiens sont en train de faire, c'est-à-dire, par exemple, limiter la liberté d'expression. C'était la grande thématique du discours de J.D. Vance à Munich. Et donc, pour moi, comprendre Donald Trump commence par comprendre ce qu'il veut faire aux États-Unis. Et une fois qu'on voit qu'il veut installer plus qu'une présidence impériale, un système impérial, ben on comprend aussi après son amitié pour des gens qu'il considère être ses vrais égaux, Poutine, Xi Jinping, etc., avec qui il est aussi en compétition systémique, mais avec qui il est sur le même terrain de l'organisation politique. Et donc, le monde vu par Trump, c'est un monde d'empire, où il n'y a pas de loi, où d'une certaine manière il n'y a plus de civilisation, où tout est permis, l'extrême vulgarité, le mélange absolu des genres, la corruption à tous les niveaux, et comme d'une certaine manière c'est le cas par exemple en Russie. Et donc évidemment ça rend son dialogue avec Poutine compliqué, parce qu'il a l'impression de voir son égal, et d'une certaine manière Poutine le fascine parce qu'il aimerait bien être une sorte de Poutine. D'où cette réunion en Europe, comme demandé par les Européens à Anchorage, mais en Europe, chez Viktor Orban, qui est le principal propagandiste de Poutine en Europe et le principal intermédiaire de Trump. Et donc les Européens se retrouvent, en fait, ils ont compris maintenant qu'ils étaient vraiment la première cible.
Marie-Cécile Nave, est-ce que ça veut donc dire que, je caricature mais je fais exprès, que Donald Trump est finalement plus proche de Poutine qu'il ne l'est de nous-mêmes, de l'Europe, d'un Zelensky et du droit ?
Soyons clairs, quand Vance vient en Europe il y a quelques mois, dans la même semaine, il insulte deux fois les Européens. D'abord au sommet de l'IA à Paris, et ensuite à la conférence de Munich. Ce terme et cette expression est tout à fait, tout à fait fascinante d'ailleurs, mais bon, ça s'est passé à Munich. Il crache sur la démocratie, il crache sur les valeurs démocratiques et libérales. Et bon, Vance, c'est une girouette politique. Et en fonction des rapports de force, il est avec le plus fort, Vance. Donc aujourd'hui, il dit ça. Et puis si demain, le mouvement MAGA se délite au profit des républicains traditionnels à nouveau, il reviendra dans le giron, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est en dézoomant un peu pas parler que de l'Occident, c'est-à-dire dans le monde, les États-Unis sont fragilisés. La fin de USAID, ça les prive d'une partie importante du renseignement de l'espionnage, de l'influence qu'ils avaient jusqu'ici dans une partie des pays, certes occidentaux, mais aussi en dehors des pays occidentaux. L'État fédéral subit des purges, en particulier dans le département de la défense, aujourd'hui renommé des ministères de la guerre, dans le département d'État, dans la haute fonction publique internationale. Et donc, on ne peut pas se revendiquer d'être le plus fort tout en sciant la branche sur laquelle on est assis. Donc, l'influence des États-Unis dans le monde, elle est quand même aujourd'hui très très fragilisé. Les États-Unis n'apparaissent plus comme un partenaire fiable, non seulement de l'Occident, mais aussi d'autres pays du monde. Et la Chine en profite pour se poser comme le pôle de stabilité mondiale dans tous les domaines, du soft comme et aussi du hard power finalement.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Peut-être que si l'on veut comprendre ce que Donald Trump entend par paix et le lien entre le concept de peace et le concept de deal, il faut commencer par lire Donald Trump, qui a écrit un ouvrage de son aveu, plus le meilleur livre de l'histoire de l'humanité après la Bible, qui s'appelait The Art of the Deal en anglais, l'art de la négociation, traduit en français, je crois, sous le titre Trump par Trump, qui avait été un immense succès de librairie à l'époque où Trump était un milliardaire très important dans l'immobilier. Mais il faisait cette théorie, mais en tout cas, il décrivait la manière dont il dealait face à d'autres milliardaires ou à d'autres hommes d'affaires. Je vous lis quelques extraits. La question est de savoir si ces textes sont aujourd'hui des textes politiques. Ma façon de traiter les affaires est simple et directe. Je vise haut, et puis je n'arrête pas d'augmenter la pression jusqu'à ce que j'atteigne mon but. Parfois, je dois me contenter de moins, mais en général, j'obtiens ce que je veux. La pire approche à adopter quand vous voulez conclure un deal est d'avoir l'air d'y tenir à tout prix. Votre interlocuteur sent alors qu'il tient, qu'il vous tient, et que vous êtes mort. La meilleure façon de s'y prendre est d'être en position de force, et un levier est la meilleure force dont vous puissiez disposer. Posséder un moyen de pression, c'est avoir quelque chose que l'autre veut, ou encore mieux, quelque chose dont il a besoin. Gallagher Fenwick, est-ce que le fin mot peut-être, dans cette grande confusion doctrinale de Trump, c'est pas cette vision commerciale du deal ? Est-ce qu'il n'y a pas une continuité entre l'homme d'affaires qu'il était et qui dealait pour acheter une Trump Tower, pour acheter un hôtel de luxe, pour acheter un champ immobilier, et celui qu'il est aujourd'hui, le président, face à Poutine, à Netanyahou ou aux autres ?
Non, bien sûr, dans son champ, j'allais dire lexical et sémantique, vous n'entendrez quasiment jamais les mots, par exemple, allié ou... alors, ennemi, si, il l'emploie, mais plutôt pour qualifier les ennemis de l'intérieur, mais... Il a plutôt, j'allais dire, devant lui un spread, et il y a d'un côté des créditeurs et de l'autre des débiteurs. Et ça, par exemple, Volodymyr Zelensky l'a très bien compris. Il ne s'agit pas de demander, de recevoir de l'aide, mais de demander s'il peut acheter des choses. Et Donald Trump, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit, on ne donne pas, on vend aux Européens, qui ensuite transfèrent. Donc effectivement, il y a cet aspect extrêmement transactionnel. Ce qui est très intéressant, Nathan, en écoutant l'extrait que vous venez de lire, c'est qu'en l'occurrence, ça n'est pas du tout ce qu'il a appliqué avec Vladimir Poutine. Il a dit tout de suite ce qu'il cherchait, et en cela, il s'est mis en position de faiblesse. Il voulait aller vite, il était prêt à des compromis, notamment territoriaux, donc il a abattu ses cartes très rapidement, et en cela, il a mis Vladimir Poutine en position de force, ce qui complique énormément la négociation. Et ça, tout le monde l'a vu. Ce qui donne cette apparence de, j'allais dire, nullité dans la négociation, alors qu'il s'érige ou il s'autonome champion en la matière. Deux choses. La première, c'est qu'il est très inspiré par un personnage qui a été très très important dans sa montée en puissance dans les affaires à New York, c'est-à-dire son avocat véreux Roy Cohn, qui était un type vraiment qui l'a philosophiquement alimenté en lui disant « il faut jamais admettre la défaite, il faut cogner, cogner, cogner », ce qui renvoie en écho à ce « fight, fight, fight ». Donc Donald Trump, si vous voulez, c'est le bully, quoi. C'est le type qui va s'imposer et qui va forcer l'autre et à affaiblir et à ployer. Je pense qu'il y a un travail littéraire intéressant à faire, qui à mon sens n'a jamais été fait. Ce serait très intéressant de comparer Hillbilly Elegy, qui est vraiment le heart of the deal quelque part, pas du tout sur l'aspect transactionnel
de J.D. Vance,
de J.D. Vance, et The Art of the Deal. Et alors, The Art of the Deal, c'est nul d'un point de vue littéraire. Hillbilly Elegy, c'est vraiment très, très intéressant. Et pour moi, et pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, en fait, l'image qui me vient à l'esprit, parce que qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire, Nathan ? On est en train d'essayer de mettre des termes les plus précis possibles sur le modus operandi de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'on le subit. Et mettre un mot précis dessus, ce serait enfin réussir à comprendre afin de pouvoir anticiper. Et donc mieux se positionner. Or, précisément, parce qu'on n'arrive pas à comprendre s'il est néo-isolationniste, néo-impérialiste, extra-expansionniste, etc., on ne sait jamais sur quel pied danser. Et J.D. Vance, et personnage que je goûte peu, je suis tout à fait d'accord avec, avec Marie-Cécile Nave sur son côté très, très opportuniste, il faut quand même lire par le passé ce que J.D. Vance disait de Donald Trump, qui paraît à Hitler. Mais il a cette faculté, et on l'a senti notamment dans, vous savez, le fil signal, cette application commerciale où on a eu accès parce qu'il y avait l'ancien conseiller à la sécurité nationale qui avait accidentellement introduit un journaliste dedans. Donc on voyait le rapport de force entre les différents éléments. Et J.D. Vance, et j'utilise cette image qui vient de l'Antiquité, en fait, Donald Trump, c'est l'oracle de Delphes. Donc personne ne comprend rien à ce qu'il dit. Et J.D. Vance, c'est la Pythie, donc la prêtresse d'Apollon, assise sur un promontoire au-dessus de la faille, et qui interprète. Alors, ce n'est pas toujours facilement compréhensible. Et nous, on est quoi ? Ben, on est en bout de course. On est les prêtres chargés de restituer aux citoyens afin de pouvoir, encore une fois, comprendre et éventuellement anticiper. Mais il faut quand même rappeler des épisodes comme celui de Crésus, qui, alors qu'il s'apprête à s'attaquer aux Perses, se trompe dans l'interprétation et donc subit une défaite absolument cuisante. Et c'est aussi ça les dangers qu'il y a en ce moment. Et c'est pour ça que vos questions sont importantes sur est-ce que c'est un allié ? Et si on a du mal à répondre ou alors qu'on répond par la négative, est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce qu'on doit lui être indifférent ? Est-ce qu'on doit passer par un rapport de force qui a certainement été envisagé derrière les coulisses, mais qui pour l'instant du côté européen, contrairement aux Chinois, n'a jamais été la position adoptée ? Et ce qui serait effectivement un moment alors de danger avec des conséquences importantes. Mais à force de ployer, de chercher à apaiser, on se retrouve face à l'auteur du Art of the Deal qui se dit « il ploie, il cherche à apaiser, je vais continuer de les faire payer, payer, payer ».
Payer, 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 cette logique débiteur créancier, Hakim El-Karoui. Est-ce que l'argument quand même de Donald Trump, c'est de dire il n'y a pas meilleure manière pour faire la paix que de créer les conditions du business, d'une prospérité future? Et on l'a vu, on est parti tout à l'heure du Moyen-Orient. On se souvient toutes et tous de ces images faites par l'intelligence artificielle sur une Gaza, la bande de Gaza transformée en riviera vulgaire avec des Trump Towers, des hôtels de luxe, etc. Qu'est-ce que ça signifie, cette invitation de l'esprit du business qui remplace complètement le langage des diplomates ?
Vous vous souvenez, à la fin de son premier mandat, sa porte-parole avait parlé des faits alternatifs. C'est l'idée que le business peut remplacer la politique, peut même le subsumer. Et on est loin du doux commerce de Montesquieu. C'est la paix par la force, c'est la paix par le business, et c'est le business qui va tout ensevelir d'une certaine manière. C'est ça l'image de vulgaire là, de ce film fait par IA sur Gaza. En fait, il n'y avait plus de Palestiniens. Et comme il n'y avait plus de Palestiniens, il n'y avait plus de problème. Il y avait juste un grand espace très bien situé au carrefour du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient, avec des très belles plages, puis un espace d'ailleurs très connu depuis l'Antiquité comme étant un lieu de carrefour. Oui, mais il reste la réalité. La réalité, c'est quand on se cogne, disait Lacan. Et là, les Israéliens se sont cognés aux Palestiniens et les Américains font comme si les Palestiniens n'existaient pas. Il n'y aura pas de paix dans quelques mois, dans quelques années, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, ou ailleurs, à l'étranger peut-être, parce que les diasporas peuvent être aussi la victime de terroristes palestiniens. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura qu'une reprise de la guerre. Et tout ce discours à la fois vulgaire et puis aussi un peu naïf, va s'effondrer. Et moi, je crois que les Américains sont à la fois très forts et très faibles. C'est d'ailleurs ce que pensent les Chinois. Les Chinois, eux, ils disent, il suffit d'attendre. On avance nos pions, on a une stratégie, eux n'en ont pas, ou alors elle est purement opportuniste, et notamment parce qu'elle est drivée par les affaires. Et ils peuvent commettre des très grosses erreurs qui pourraient aussi se traduire par le saut dans l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe si demain les Chinois envahissent Taïwan ? À la fois sur le plan géopolitique, sur le plan économique, on sait que Taïwan est un endroit clé pour la production de microprocesseurs, de puces. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, tout ce que fait Trump depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est dire qu'en fait, il ne saura pas quoi faire. Et donc, il crée beaucoup d'incertitudes. Il a une vision à l'évidence impériale, à la fois pour lui et puis pour son pays, mais il n'a pas de stratégie. De ce point de vue-là, il se comprend bien avec Netanyahou, qui a aussi une vision du grand Israël, de la puissance, de la paix par la force, mais qui n'a pas de stratégie non plus, donc qui a une armée extraordinairement efficace, mais qui ne sait pas faire la paix. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils se comprennent. Netanyahou est le seul allié de Trump, hein, parce que Trump méprise les Européens, mais il ne méprise pas Netanyahou, même si de temps en temps, il lui tape dessus comme un petit garçon. Tout ça nous emmène quand même sur des rives qui ne sont pas très connues, avec un seul point fixe, j'y reviens, c'est l'ennemi de l'intérieur. Parce que là, pour le coup, il sait exactement où il va. Et c'est, à mon avis, sa vraie priorité, combattre l'ennemi de l'intérieur, s'imposer, imposer un système qui n'est plus du tout un système démocratique.
Marie-Cécile Nave, je me demande, au terme de cette discussion, si peut-être l'acte inaugural de Donald Trump, dans tous les sens du terme, ce n'était pas le retrait des accords de Paris sur le climat de la COP21. Donald Trump, quand il arrive au pouvoir, il part du principe que des accords sont des deals mal faits, et là il raisonne comme un homme d'affaires, de dire « c'est pas dans nos intérêts, on se withdraw, on se retire ». Comment penser des questions aussi importantes, de ce point de vue-là, du business et des avantages inconvénients ?
The art of the deal, c'est une mise en scène de soi, qui s'auto-présente comme un homme d'affaires à succès, ce qui est totalement faux quand on regarde l'histoire économique de businessman de Trump. Il a eu énormément d'échecs, il a plusieurs fois fait faillite, etc. Mais il s'est construit ce mythe de celui qui s'en sort toujours. Et en fait, dans le retrait des accords de Paris, c'est la haine du multilatéralisme, c'est la haine de la discussion, d'être égal à égal à la table des négociations. Et je voudrais revenir quand même un petit peu sur Gaza, parce que c'est l'actu chaude. Je disais tout à l'heure que mais c'est lié à ce qu'on vient de dire là, hein, la cessation des hostilités à Gaza n'est pas un but en soi, mais un passage obligé pour faire des affaires. Et il y a quand même un projet politique qui est derrière, qui est créer un territoire ultra connecté, sans gouvernement, sans parlement, une sorte d'utopie qui mixerait le rêve de Peter Thiel et les mégalopoles du Golfe, des espèces de villes miraculeuses qui sont au service d'un projet politique consistant à gagner des points dans la course à l'IA contre Israël et à mettre en forme un État qui ferait disparaître les individus au profit du capital risque.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission. Merci beaucoup aussi à Aline Biette qui l'a préparée. Merci à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. À bientôt.